BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du club BFM Crypto. On va beaucoup parler d'euros numériques aujourd'hui, il y a de l'actu. On parlera aussi des Français et du Bitcoin avec un baromètre tout à l'heure. Mes invités du jour, Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School et présidente de Génération Libre. Bonjour Nathalie.
Bonjour Sandra.
Face à vous, Éric Lacourège, directeur général des moyens de paiement à la Banque de France. Bonjour Éric, merci
bonjour,
d'être sur ce plateau. Et Alexandre Sachchenko va nous rejoindre, directeur de la stratégie et de la communication chez Bitstack, pour parler de ce baromètre. Vous savez que vous pouvez nous écrire également, nous poser toutes vos questions. Et aujourd'hui, peut-être que cette émission va justement générer pas mal de questions. Vous nous écrivez à cette adresse crypto@bfmbusiness.fr. Le club crypto, c'est parti. C'est opportunément une très bonne date pour se parler, Éric Lacourège, directeur général des moyens de paiement à la Banque de France. On rappelle que la Commission des affaires économiques et monétaires a adopté donc le projet d'euro numérique. Ça, c'était à la fin du mois de juin. 43 voix pour, 14 contre, une abstention. Le texte qui devait être approuvé en séance plénière, et vous avez des infos sur cette date-là.
On en est où ? Alors, on vient d'apprendre que le vote en séance plénière se fera demain.
Demain.
En fin de matinée.
Et l'étape d'après, alors, du coup, une fois que ce vote sera fait ?
Alors, l'étape d'après, on rentre dans la mécanique institutionnelle européenne. C'est déjà un signe très fort d'adoption de ce projet. On va rentrer dans ce qu'on appelle le trilogue, c'est-à-dire la phase de concertation entre les trois grandes institutions européennes, le Conseil, la Commission et le Parlement, pour aboutir à une version finalisée du texte qu'on espère voir aux alentours de la fin de l'année.
Qu'est-ce qui se discute, justement, entre ces trois organes-là, concrètement ? Qu'est-ce qui est sur la table ?
Alors, il y a un ensemble de sujets techniques encore très importants qui ne sont pas totalement fixés. Et donc ça va faire l'objet des prochains mois. L'architecture globale du texte est déjà largement avancée, largement formalisée dans le texte tel qu'il est voté par le Parlement. Mais pour vous donner un exemple,
oui,
on a par exemple le régime de fees, hein, de oui, commission, hein, pour faire marcher l'équilibre de ce moyen de paiement qu'il faut définir. Et c'est d'autant plus important que ça a un impact sur l'écosystème actuel. Hein. Par exemple, chez nous, CB ou Wero, donc il faut qu'on fasse très attention à la finalisation dans le trilogue.
Alors, on rappelle que ce projet a été lancé par la BCE en 2021, l'euro numérique qui vise à créer une version numérique des espèces. Est-ce qu'on peut rappeler, au-delà de ça, sa mission principale, à quoi il va servir en gros ?
Oui, alors, l'ambition, c'est en fait d'avoir dans une zone monétaire à 21 pays, 350 millions d'habitants, un moyen de paiement qui se superpose à la monnaie unique. Un moyen de paiement collectif, si je puis dire, qui n'existe pas aujourd'hui, mis à part des moyens de paiement non domestiques, hein, c'est-à-dire qui viennent d'acteurs extra-européens. Et donc l'idée, c'est d'avoir, à minima, sur l'ensemble de cette zone, un moyen de paiement commun.
Et on vous a parlez saisi... de moyens de paiement, c'est CB, c'est Visa, voilà, c'est Mastercard, c'est ça, hein,
c'est
dont
ça,
on parle.
C'est ça, un moyen de paiement. Un moyen de paiement, c'est un outil, une carte, une application sur le téléphone, un billet de banque qui permet de faire ses achats de la vie quotidienne. Donc l'ambition, c'est ça, c'est d'avoir dans l'ensemble de la zone, pour l'ensemble des habitants de la zone euro, des 21 pays, un moyen de paiement made in Europe, si je puis dire.
À quel terme ?
Alors le terme, c'est qu'il y a deux étapes importantes qui vont arriver. La première, c'est qu'on va, donc on va lancer avec le feu vert, bien sûr, parlementaire, et puis le trilogue, on va lancer le développement de cette application, de ce système, de ce projet. Et puis, première étape, on va faire un pilote, donc pour tester sa viabilité, probablement donc d'ici la fin de l'année prochaine, hein, deuxième semestre 2027. Et la mise en service serait prévue courant 2029, donc talons sur le deuxième semestre 2029, dans l'ensemble de la zone.
Ça va concerner qui, finalement, principalement ? Est-ce que ça va impacter les ménages ? Est-ce que ça va impacter les entreprises ? Est-ce que ça va impacter les banques commerciales ? Et à quel niveau ?
Alors, c'est un moyen de paiement grand public. Hein. Donc, ce n'est pas un moyen de paiement qui sera réservé aux entreprises entre elles, par exemple. Hein. Mais le but, c'est bien d'avoir un moyen de paiement pour tous les actes de la vie quotidienne. Mmh. Donc, ça va concerner qui ? Ça va concerner, bien sûr, tous les citoyens en âge d'avoir un compte bancaire et donc de payer. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde dans la zone euro. Ça va concerner, bien entendu, les banques, parce qu'elles vont distribuer ce moyen de paiement. Mais ça va concerner aussi les commerçants parce qu'ils vont recevoir en paiement avec ce moyen, hein, cet euro numérique, les actes d'achat de l'ensemble des consommateurs.
L'une des peurs que j'ai vues, que j'ai lues, c'est que ça allait en quelque sorte neutraliser le rôle des banques commerciales. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce que ça va changer leur rôle dans, par rapport à ce qu'elles font aujourd'hui ?
Ça, c'est un très bon point. On est très vigilant là-dessus. On a eu beaucoup d'échanges avec les banques sur ce sujet. Le but, c'est que non, ça ne désintermédie pas les banques. C'est-à-dire, ça les met pas de côté par rapport au flux économique, au flux de paiement, au flux financier. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'euro numérique ne va pas être distribué, par exemple en France, directement par la Banque de France. Il va être distribué via les banques. Donc, on va conserver la relation clientèle traditionnelle des banques. Ça sera un premier sujet. Et deuxième sujet important qui est sous-entendu probablement dans votre question, c'est que cet argent-là qui sera utilisé par l'euro numérique, ça, c'est de la monnaie centrale, c'est comme les billets. Ça veut dire que cet argent, en fait, sort du bilan des banques quand il est utilisé pour payer avec une application euro numérique qu'on aura demain. Le but aussi du projet, c'est que ça n'ait pas d'impact financier sur les banques.
Et donc sur. Elles avaient peur que les dépôts partent, notamment sur ces comptes-là. Dépôts.
Absolument. Et donc, un des sujets, pour rebondir sur votre question sur à quoi sert le trilogue qui arrive, un des sujets, c'est aussi de fixer le bon niveau du plafond de dépôt sur le compte euro numérique pour que ça n'ait pas d'impact sur la fuite des dépôts.
Ce sera plafonné, justement. Ça, on ne pourra pas mettre n'importe quoi sur ce compte-là. Question, Nathalie Janson. Parce que vous, évidemment, et dans cette émission, on le dit souvent, on s'interroge sur la nécessité de cet euro numérique par rapport notamment aux stablecoins qui sont très développés aux États-Unis, que nous, on essaye de développer en euros. On a un peu de mal. Mais c'est vrai que la question se pose par rapport à ça, Nathalie Janson.
Oui, depuis longtemps, en fait, on s'est toujours demandé à quoi pouvait servir un euro de détail, puisque, par contre, l'euro, qu'on ait un euro numérique de gros, ça, c'est quelque chose qui a même été dans les cartons bien avant, puisque je pense qu'il y a le fait de pouvoir utiliser la blockchain pour développer une nouvelle autoroute de paiement semblait être quelque chose à favoriser. D'ailleurs, c'est déjà de toute façon sur les rails également. Mmh. Et la question s'est toujours posée de pourquoi vouloir pousser jusqu'à l'euro numérique de détail, puisqu'effectivement, ça donne des nouveaux cerveaux aux banques et à la banque centrale, de toute façon, puisqu'elle doit à la fois ménager la chèvre et le chou. Et on voit bien que là, la question du niveau la limite
des dépôts,
c'est important, parce que finalement, si vous la faites trop haute, elles ne sont pas contentes. Si vous la faites trop basse, elles vous rétorquent. Enfin, en tout cas, pour avoir assisté à des conférences sur le sujet par la Fédération des banques, elles disent tout ça pour ça. C'est-à-dire que nous, on va devoir gérer des coûts, parce qu'il y a quand même des coûts de back-office.
On va en parler, bien sûr.
Voilà, des banques, mais bon, si c'est pour ça, c'est pas la peine. Donc, effectivement, on voit bien qu'il y a une tension entre les deux et que cette tension n'est pas facile à résoudre et qu'on se demande pourquoi vouloir autant, effectivement, persister sur cet euro de détail, même si on comprend bien que ça peut effectivement le rendre populaire. Enfin, ça peut, effectivement, il y a une question de marque. Et ça, je rebondis sur, je fais le lien avec l'expérience qui n'a pas abouti sur une phase d'adoption qui était l'expérience de la Banque de Suède, puisqu'elle est allée très loin, elle a eu 4 phases de test, donc on peut pas dire qu'ils aient pas essayé.
Ils ont abandonné.
Et je pense que la raison pour laquelle ils ont abandonné, outre le fait que c'est un pays plus petit, donc il y a peut-être moins d'enjeux. L'attention, c'est que à la fin, ils en étaient à un point où ils se sont dit, pour avoir quelque chose de hyper innovant, je vais laisser les banques s'approprier en fait la technologie. Donc je vais les laisser développer leur blockchain base. C'était une DLT en fait, ce qu'ils avaient en dernière phase. Et quand ils ont fait ça, ils se sont rendu compte, comme c'est différentes DLT, finalement, c'est plus une monnaie qui est symboliquement unique. Et donc, je pense que c'est en arrivant à ce constat qu'ils se sont dit, en fait, je suspends, puis je verrai bien. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a cette tension entre soit c'est les banques qui développent et il faut les inciter à le faire. Et à ce moment-là, c'est des monnaies privées. Et moi, ça me fera plaisir, ça ressemblera au 19e siècle où j'avais des monnaies privées. Mais effectivement, c'est pas ce que veut la BCE. Mmh. Donc, on en revient à cette. Voilà.
On aura ce risque-là, potentiellement, de tester, d'avoir plusieurs phases comme ça, et puis peut-être justement par mésentente des différents acteurs arriver à un constat que non, c'est pas possible.
Je voudrais insister sur un point qu'effectivement notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de privatisation de la monnaie. C'est un risque.
Oui,
Souligner, Nathalie, c'est vrai que le risque, il est fort. Alors, ceci dit, pour répondre peut-être qu'on peut nous dire que l'euro numérique n'est pas la bonne réponse. Ceci dit, on tire la question de l'appréciation de la monnaie par les moyens de paiement. Ça, bien entendu, c'est très direct et traditionnel. L'euro numérique, le risque que ça ne marche pas aujourd'hui est relativement faible. C'est-à-dire qu'on a, lancé le projet depuis assez longtemps, on a fait énormément de phases d'investigation, on a beaucoup travaillé sur les questions d'infrastructure, on n'a pas tout à fait fini, on va continuer, beaucoup avec les banques aussi. Et notamment, par exemple, avec Wiro, on est en train de voir la convergence entre Wiro et euro numérique.
Oui, parce qu'il ne faut pas qu'ils se cannibalisent, j'imagine.
Absolument. Et pour offrir une expérience utilisateur qui soit unique au travers d'un seul wallet, un portefeuille, pour à la fois le paiement euro numérique, par exemple le paiement Wiro. Donc, on est plutôt très bien parti sur tout ça. L'enjeu d'infrastructure est très important dans ce projet. Il s'agit d'avoir une application en paiement instantané pour des centaines de millions de personnes potentielles, avec les pics de paiement en Noël. Enfin, tout ça, on connaît. C'est ce que gère Visa, Master, CB en France. Mais c'est un enjeu technologique. Ceci dit, le risque d'échec sur cette partie infrastructure est très faible à ce stade.
Effectivement, on parlait du coût tout à l'heure. J'ai entendu tous les coûts. De 3 milliards, milliards à 18 milliards.
Ça coûterait 700 milliards aussi. Moi,
voilà,
entendu,
effectivement. Voilà,
pour les banques.
Donc, j'imagine que ça va être discuté. Les banques avaient peur que ça leur retombe dessus, justement. Est-ce qu'on a des informations plus précises sur le coût et sur qui va payer?
Oui, alors on attend que le projet soit lancé officiellement et on va bien sûr, par souci de transparence, communiquer bien sûr sur l'estimation des coûts, parce que c'est un sujet collectif. Alors il y a deux types de coûts. Il y a les coûts internes de l'eurosystème, c'est-à-dire la collectivité des banques centrales qui, pour développer le produit, qui va être donné gratuitement à la population, bien sûr, c'est comme les billets, ça serait, je dirais, un service collectif.
Mais ça se ressentira pas sur les frais bancaires, par exemple.
Voilà.
Ça, c'est les coûts internes de l'eurosystème. Ils ne sont pas refacturés aux banques, bien sûr. Et puis il y a les coûts d'adaptation des banques. Ça, c'est ce qui fait polémique aujourd'hui. On a entendu effectivement une étude qui a été faite par la Fédération bancaire européenne et par un cabinet mandaté qui expliquait que c'était entre 15 et 30, plus de 30 milliards d'euros. On a des estimations beaucoup plus basses. On a fait, nous, une estimation côté Eurosystème qui est plutôt entre 5 et 10 milliards d'euros d'adaptation, à diviser par les plusieurs milliers de banques dans la zone euro qui auront obligation de proposer, parce que ça sera cours légal, donc obligation de proposer aux clients, ce service euro numérique. Et donc, la phase qui arrive va être aussi une phase d'objectivation. Maintenant, si on est sûr de lancer le projet, sur les coûts, et bien entendu, on va analyser ça avec l'ensemble des partenaires, aussi en essayant d'être dans une logique d'apaisement sur ce débat, puisqu'il n'aura plus lieu d'être. Il faut qu'on y aille, si je puis dire.
Non, je vois tiquer Alexandre Stachenko à vos côtés. Vous risquez d'être un petit peu challengé, je vous le cache pas, Eric Lacourage.
Avec plaisir.
Un avis, ouais. Alexandre.
Je ne voudrais pas monopoliser. Non, chacun connaît effectivement ma position sur le sujet. Je n'ai pas de mots assez durs pour l'euro numérique de détail, mais je commence par le point d'accord en disant que sur l'euro numérique de gros, en fait, je rejoins les propos qui ont été tenus. C'est un projet qui est légitime, qui était dans le scope de la Banque Centrale Européenne, des banques nationales, des banques elles-mêmes, qui pouvaient avoir un intérêt à optimiser les paiements. Donc, en fait, il y avait un projet, j'allais dire, en tâche de fond, qui pouvait être parfaitement légitime à développer. Historiquement, si je ne me trompe pas, c'est d'ailleurs la position de la Banque de France, à l'échelle européenne,
début,
dire, voilà, il y a peut-être même une priorité à mettre sur la MNBC de gros plutôt que celle de détail. Ce n'est pas cette position qui a gagné au niveau de l'Union européenne. Et je m'en désole, parce qu'effectivement, mon opinion sur l'euro numérique, c'est que c'est un projet qui est absurde, inutile, dangereux, qui accessoirement est contre-productif, parce qu'on l'a dit, il y aura des sujets de compétitivité contre le secteur privé. Pendant ce temps-là, on a une régulation qui quasiment empêche, ou en tout cas contraint fortement, l'émission de stablecoin, alors que ça marche. Sur tous ces angles-là, je pense effectivement qu'il y avait vraiment autre chose à faire. Et là où je vais être un peu taquin, parce qu'on a dit le risque que ce projet ne marche pas est faible, je pense que c'est pas tout à fait ça. C'est que le risque que ce projet ne voit pas le jour est faible. En revanche, qu'il ne marche pas, il est élevé. Parce que ce serait pas la première fois que l'Europe s'entête à faire des projets qui ne fonctionnent pas. Donc, il verra probablement le jour, mais il ne fonctionnera pas. Et s'il fonctionne, c'est même presque plus grave. Parce que ça voudra dire potentiellement, on l'a dit, la Banque Centrale qui s'invente un nouveau rôle, tenir des comptes pour 400 millions de personnes. Les banques commerciales qui vont dire non, je veux baisser la limite des dépôts. Ces mêmes dépôts dont on va dire finalement, ils sont connectés à votre compte bancaire au cas où vous voulez faire des paiements supérieurs à la limite. Donc en fait, l'anonymat n'est plus là. On dit c'est pareil que les espèces. Bah non, puisqu'on vient de dire juste ici qu'il fallait avoir 18 ans. Il me semble qu'on peut donner 2 euros à son fils ou sa fille pour aller acheter une baguette de pain. Enfin, non, il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Et à mon sens, je termine par là. Je dis souvent qu'il suffit de regarder sur Google Trends ou sur les moteurs de recherche en ligne pour voir que les mentions de MNBC sont absentes. Personne n'en parle avant la mention de Libra, le projet de Facebook. Mmh. Donc, à mon sens, ce projet est à 90% un projet de communication qui vise à dire la puissance publique réagit, ne vous inquiétez pas. Mais je pense qu'elle aurait surtout intérêt à favoriser l'émission, par exemple, de stablecoin euro, ce qu'ont fait les États-Unis.
Allez-y, Eric Lacourage, vous pouvez vous défendre.
J'ai bien fait de venir.
C'est pour ça que je ne veux pas monopoliser.
Vous êtes là pour ça.
Peut-être on peut débattre plusieurs heures parce que beaucoup de contre-vérités viennent d'être dites, mais quelques points importants. Un, le projet wholesale, c'est-à-dire MNBC de règlement interbancaire de gros, n'est pas abandonné, il est même priorisé.
Il est priorisé. Hein,
donc attention, cette première contre-vérité, ce n'est pas du tout abandonné au profit du projet euro numérique. On va faire les deux en même temps. Et même, c'est très important, on va livrer l'infrastructure wholesale
en même temps.
Bien avant. Ah oui. Normalement, puisqu'il y a une première phase qui devrait arriver à la fin de cette année, donc ça va arriver vite. Hein. Et donc ça, effectivement, c'est plébiscité. Voilà. Alors ensuite, sur le projet euro numérique de détail, juste quelques points importants. Notre enjeu à nous, banquiers centraux, c'est d'éviter que ce soit le Far West dans les paiements. Ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser un bien public, qui est la monnaie, monopolisé par des acteurs privés, avec le risque de désintermédiation, y compris d'ailleurs de la monnaie derrière. Et donc ça, c'est ce qui a surplombé le débat sur ce projet. Ensuite, sur un certain nombre de points que vous avez indiqués, l'application euro numérique sera gratuite et donnée dans l'ensemble donc de l'eurosystème.
Facturé aux contribuables, c'est tout, mais ce ne sera pas gratuite.
Comme les billets de banque aujourd'hui, et c'est une version, je dirais, digitalisée des billets de banque, ouais. Avec par exemple, alors vous parliez des consommateurs et des jeunes, on pourrait très bien la donner à partir d'un certain âge, on va décider, on va voir à partir de quel âge
donc,
on peut la donner.
Donc c'est pas anonyme.
On verra. Alors, et d'autre part, on désintermédie pas les banques puisque la banque centrale ne tiendra pas les comptes en euros numériques des individus. Mmh. Et donc ça, c'est très important. On va, je l'ai dit tout à l'heure avant que vous n'arriviez, ça sera donné, bien sûr, aux banques commerciales qui vont gérer la relation client, comme aujourd'hui, avec sur l'euro numérique, avec leurs clients. Et d'autre part, point très important, on va convertir dans l'univers digital la question de l'anonymat des paiements. Alors là, on va rentrer dans une subtilité, c'est qu'on prévoit dans l'euro numérique d'avoir un paiement online, effectivement avec une mécanique de lien avec le compte bancaire, qui lui fera l'objet de toutes, par les banques, comme aujourd'hui sur les comptes actuels en monnaie commerciale, de toutes les procédures de contrôle LCBFT, lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme. Donc ça se fera pareil pour l'euro numérique. On aura aussi, comme dans un porte-monnaie physique, un compte offline. Dans son téléphone portable, l'application euro numérique pourra être chargée en offline et pourra payer sans quand il n'y a pas de réseau. Et là, par contre, le paiement sera anonyme, mais sur des petits montants. Et ça reste à décider.
Voilà. Nathalie. Oui, alors je rebondis. Je profite de. Il y avait des articles assez intéressants de certains analystes sur ce qu'ils voient dans l'euro numérique et la perspective d'avoir un renforcement de la visibilité de l'euro. Parce que bon, après tout, c'est quand même ça, je pense, la bataille, le nœud de la bataille, hein, comme Alexandre l'a introduit. En fait, c'est bien parce qu'en 2019, on a eu le projet Libra que les banques centrales se sont dit oulala, faut vite qu'on fasse quelque chose qu'on va avoir moins d'importance. Et à partir de ce moment-là, effectivement, l'idée, c'est comme la Chine est partie en premier et que les États-Unis ont déjà cette prédominance sur les stablecoins dollars, nous, on est un peu entre les deux, il fallait qu'on prenne une décision. Et en fait, certains disent, après tout, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça, si, par contre, effectivement, on change aussi la réglementation sur les... Alors, c'est plus dans une perspective de concurrence, c'est-à-dire qu'ils disent qu'en fait, un euro numérique qui marche, qu'il soit celui de la BCE ou un stablecoin privé, pourrait avoir le mérite, en fait, de rendre plus d'unifier, d'avoir une monnaie unique et qui soit plus fédératrice et qui soit plus sûre que ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire comme on n'est pas une réserve de valeur, on n'a pas le T-bills qui va avec le dollar, là on aurait une
un
monnaie
ensemble,
qui aurait comme backup les bons du trésor de la région euro, et donc on pourrait proposer parallèlement des stablecoins qui sont backés par des titres euro et qui pourraient donc peut-être conduire à enfin unifier le marché financier européen.
Bon, voilà. On a un baromètre à commenter, mais justement par rapport au stablecoin euro, on a appris que le Crédit Agricole allait lancer le sien. Voilà, il y a des tentatives un petit peu individuelles de lancer ces stablecoins euro. Ce sera C'est complètement concurrentiel, c'est un complément. Vous l'analysez comment?
Oui, moi, on voit vraiment ça, la Banque de France, comme un complément. Mmh. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, que... avec mon voisin de droite, on ne parle pas du même monde, en réalité. Aujourd'hui, il n'est pas question d'expliquer que l'avenir des paiements de détail chez les commerçants doit être fait en crypto. Enfin, ce n'est pas réaliste et ce n'est même pas forcément souhaitable. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur le sujet de l'euro numérique, on est vraiment dans la logique d'essayer de trouver un moyen de paiement fédérateur pour l'ensemble des 21 pays de la zone euro et... les stablecoins interviennent dans une autre dimension. Mmh. Aujourd'hui, le sujet de la désintermédiation des banques avec des stablecoins en US dollars et des infrastructures de paiement interbancaire, c'est vraiment pour la partie wholesale, c'est pas pour la partie retail. Et donc, le créneau, je dirais, le business model de l'euro numérique de détail, il est totalement parallèle au débat à ce stade sur les stablecoins, jusqu'au jour où, je sais pas si ça arrivera, on ira acheter son pain avec une stablecoin euro. Mais on n'en est pas là.
On va passer, il nous reste quelques minutes pour parler de ce baromètre que vous avez sorti chez Bitstack, baromètre sur les Français, le Bitcoin, Alexandre Stachenko. Très intéressant, les Français sont extrêmement nombreux, presque la totalité connaissent très bien le Bitcoin. Par contre, ils ne sont pas capables de l'expliquer.
Oui, mais ça, on l'avait retrouvé déjà sur un autre baromètre qui avait été fait plus tôt dans l'année, qui est fait chaque année par la DAN, sur les Français et les cryptos. Et justement, ça a été un peu la genèse de ce baromètre. C'est que nous, vous savez, on a une conviction chez Bitstack, on propose que le Bitcoin. On pense que ce sont deux sujets qui sont radicalement différents, le Bitcoin et les cryptos. Mais au-delà de cette conviction entrepreneuriale, de ce qu'on constate sur le terrain, des connaissances qu'on a, etc., on n'avait rien pour l'objectiviser. Donc, on a décidé de faire ce baromètre et d'aller interroger sur le Bitcoin spécifiquement, et pour essayer de différencier ces populations. Et quelle ne fut pas notre surprise en constatant qu'effectivement, on validait un certain nombre de nos intuitions. D'autres points étaient tout à fait connus et sont simplement confirmés. Puis il y a aussi des petites surprises. Et donc, parmi ces non-surprises, entre guillemets, il y a tous les éléments qui viennent confirmer ce que disait déjà le baromètre de la DAN. On est à 8% de détention de Bitcoin parmi les Français. Le baromètre de la DAN disait 11, mais c'était 11 dans les cryptos en général. Et en fait, c'était 70% de Bitcoin sur 11%. Bon, bah, en fait, on trouve la même chose. On est à quasiment 95%, on est à 93% de notoriété. Si on dit Bitcoin à quelqu'un, il en a déjà entendu
parler. Tout le monde connaît, plus ou moins.
Dès qu'on passe à la question « Sauriez-vous l'expliquer ?» écroulement total, évidemment, on passe à environ 17% de gens qui disent « Voilà, moi, je suis capable de l'expliquer. » Alors après, on ne leur a pas demandé d'expliquer, puisque ça se trouve, on descendrait encore plus bas sur ceux qui peuvent effectivement l'expliquer. Mais ça montre bien que ce n'est plus un problème de notoriété, c'est un vrai problème de pédagogie et d'explication. Et après, on a trouvé trois, grands constats sur justement les Français et Bitcoin. Le premier, là, je l'ai fait en batterie, puis on peut détailler un peu plus. Mais le premier, c'est que effectivement, on est venu valider notre intuition. Un détenteur de Bitcoin n'a absolument rien à voir avec un détenteur de crypto. Ce sont deux profils radicalement différents.
Oui.
Le deuxième, ça vient plutôt confirmer ce qu'on savait déjà, c'est qu'il y a une vraie rupture générationnelle. C'est que quasiment toutes les variables, toutes les statistiques, la variable discriminante, c'est l'âge. L'image positive, le rapport à Bitcoin, l'intention de détention, etc., etc. Et le troisième, on en avait déjà parlé un petit peu il y a quelques semaines sur ce plateau, en avant-première, c'était le rapport spécifiquement des femmes, en tout cas des Françaises, à Bitcoin, qui est un rapport à la fois de sous-détention, puisque comme dans tous les autres actifs financiers, malheureusement, les femmes sont sous-représentées. C'est autour de 4% pour les femmes de détention versus 12,5% pour les hommes.
Oui.
Mais en revanche, il y a vraiment deux populations de femmes, justement. Il y a celles qui souhaitent le faire et qui ne le font pas, qui ne passent pas le pas. Et en réalité, il est là le vrai différentiel entre les hommes et les femmes. C'est celles qui ne passent pas le pas et celles qui l'ont déjà fait et en fait se détachent un profil hyper intéressant. Donc, pour faire les angles à part, sauf si vous avez des questions au milieu.
Allez-y, mais sur le profil, par exemple, effectivement, de ces détenteurs. Continuez ce que vous disiez.
Sur le profil, effectivement, des détenteurs. Donc, il y a déjà ce sujet Bitcoin versus crypto. En fait, le détenteur de Bitcoin aujourd'hui, je prends ceux qui ont du Bitcoin, et après, je le compare à ceux qui ont des altcoins, donc des autres coins, et qui n'ont pas de Bitcoin. Le détenteur de Bitcoin, c'est, en gros, je fais le portrait robot, mais CSP+, multi-épargnant, présent en bourse, qui garde avec un horizon de détention supérieur à 5 ans.
Long terme.
Et qui place accessoirement son Bitcoin devant les actions, par exemple, comme outil de préservation du pouvoir d'achat.
Et ça, c'est intéressant.
Alors ça, cette phrase, ce dernier point que je viens de dire, il est valable pour tous les Français. Mm. Ça, au-delà des détenteurs, c'est-à-dire qu'on demande à un Français, là on a demandé Pour vous, quel est le placement qui préserve le mieux de pouvoir d'achat à 10 ans? Alors évidemment, il y a Livret A, etc. Mais il y a ensuite Bitcoin à quasiment 10% des Français qui disent oui. Et c'est en dessous qu'on a les actions à 6%. Et c'est très, très en dessous à 1 ou 2% qu'on a les altcoins qui, effectivement, ne sont pas plébiscités pour ça. Mais à l'inverse, le détenteur d'altcoin, lui, en fait, c'est un autre profil. Il est beaucoup plus jeune. Ils ont quasiment 18-20 ans, en fait. Ils sont moins patrimoniales, moins établis financièrement.
C'est l'appétence au risque, hein. C'est un peu du jeu. Hein.
Exactement. Ouais. Mais donc, on voit que ce n'est pas du tout la même raison qui va pousser ces deux populations à s'orienter vers ces deux choses-là. Autre chiffre aussi très intéressant, c'est que dans la littératie financière, donc on a fait un test classique, hein, on demande en gros les intérêts composés. Voilà, vous avez 2% par an pendant 5 ans, est-ce qu'à la fin vous avez 110, plus de 110, moins de 110, ou vous ne savez pas? Dans les Français en général, c'est à peu près 40% de répondants qui répondent la réponse correcte, en l'occurrence plus de 110, puisque les intérêts composés. Pour les détenteurs de Bitcoin, c'est quasiment 60%. Mmh. Pour les détenteurs d'altcoin, on est en dessous des Français, on est à 35%. Donc c'est pareil, même sur cette variable-là, on voit que la personne qui va vers Bitcoin, en fait, c'est pas la lubie spéculative comme c'est souvent
dit. Peut-être qu'elle s'éduque aussi à partir de cette action-là.
Exactement. Alors après ça, on le voit surtout sur les femmes. Parce que après la question se pose dans quel sens? Est-ce qu'ils ont d'abord acheté autre chose, puis du Bitcoin, ou du Bitcoin puis autre chose?
Et les femmes achètent plutôt du Bitcoin.
Exactement,
d'abord.
Les femmes beaucoup plus que les hommes. Dans les détentrices, on est à 41% par exemple sur des 25-34 ans sur les détentrices femmes. 41% Bitcoin, c'est leur premier investissement. Pour les femmes en général, c'est 38%. Donc c'est supérieur aux hommes puisque c'est 30%, 31% pour les hommes. Donc c'est vraiment sur cet angle-là, quand on rajoute en plus le profil sociologique des femmes qui ont du Bitcoin, on trouve pareil des CSP+, j'en ai cité la dernière fois, le profil par exemple des chefs d'entreprise dans la population active des femmes, c'est 4%. Dans la détentrice Bitcoin, c'est 14%. Donc on voit se dessiner un profil de détentrice qui est plutôt justement tourné vers la liberté, l'émancipation. Dans les raisons qu'elle mentionne pour détenir du Bitcoin, c'est s'émanciper des banques, s'émanciper pour les paiements. C'est que des raisons d'émancipation. Toutes les raisons financières de diversification et de performance en fait sont sous-citées par les femmes. Donc c'est hyper intéressant.
Un dernier chiffre qui m'a vraiment très intéressé, près de la moitié des Français interrogés sont favorables à une réserve stratégique nationale. Et ça, il nous reste une minute, mais je trouve que c'était très intéressant d'avoir sorti ce chiffre.
Le caractère favorable ou non à une réserve stratégique nationale, c'est pareil que les autres statistiques, il s'érode complètement avec l'âge. En fait, quand on regarde sur les 25-34 ans, c'est plus de la moitié. On est déjà à 60%, quasiment les deux tiers. On pourra poser la question, évidemment, est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire une réserve stratégique nationale? On l'a détaillé dans la question, évidemment, mais on peut toujours introduire un biais, donc ça, on veut bien évidemment l'entendre, mais on a 60% des déclarants de cet âge-là, de cette tranche d'âge, qui disent « oui, je suis favorable ». Dès qu'on avance en âge, 50%, 30%, 31% quand on arrive sur plutôt les 55-64 ans. Mais ce que ça montre, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, il y a aussi une affaire d'image positive de Bitcoin. En réalité, c'est un des enseignements de cette étude, c'est que l'hostilité se marginalise. On n'est plus qu'à 20-25% dans la population générale de gens qui ont une opinion négative de Bitcoin. Il y a encore à peu près la même chose qui n'ont pas d'opinion, mais on est quasiment en train d'atteindre la moitié des Français qui ont une opinion positive. Ça se traduit dans ça et dans le minage aussi, des gens qui veulent miner avec les surplus électriques.
Mais ça, faudra revenir pour en parler.
Bien sûr.
Je n'ai plus de temps et je suis ravie qu'on puisse aborder tous ces sujets sur le plateau de BFM Crypto. On y reviendra à la rentrée, évidemment. Merci à tous les trois d'être venus dans cette émission. Nathalie Janson, économiste, professeure à la Neoma Business School, présidente de Génération Libre. Éric Lacourège, directeur général des moyens de paiement à la Banque de France. Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie et de la communication chez Bitstack. Je suis en retard. Je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée.
BFM Business, BFM Crypto, le club.